La revue de presse avec vous, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous. Bonjour. Parfois, on a du mal à croire ce qu'on lit dans la presse. On se dit non, c'est pas possible. On se dit non, ceci n'a pas pu arriver. Et c'est ce que j'ai pensé ce matin en découvrant ce titre en une du Télégramme. Bretagne, il électrifie sa femme pour des mots croisés incomplets. Première réaction, électrifier sa femme, comment un homme peut-il faire cela? Deuxième réaction, comment un homme peut-il faire cela pour une histoire de mots croisés? Troisième réaction, comment un journal peut-il nous raconter l'histoire sans préciser nulle part qu'il s'agit ici d'une tentative de meurtre? Sans doute parce que cela est sous-entendu. Mais cela ne coûte pas grand-chose de l'écrire, sachant que depuis le début de l'année, déjà plus de 50 femmes ont été tuées en France par leur compagnon ou leur ex le 12 mai. C'était une jeune femme de 22 ans, battue à mort à Lyon. Le 5 mai, c'était une sexagénaire poignardée en Gironde, 40 coups de couteau. Début avril, c'était Dalila, 50 ans, abattue par son mari d'un coup de pistolet dans le Var. Chaque fois, on nous donne les détails, c'est ce qui fait la singularité des faits divers, même si au fond, toutes les histoires se ressemblent. Ce sont des hommes qui tuent leurs femmes ou qui tentent de les tuer, comme dans l'affaire dont se fait donc l'écho le Télégramme. Il s'agit ici d'un retraité de 79 ans, incarcéré depuis hier à Brest, dans l'attente de son procès en juillet, mardi, près de Quimper, à Ergué-Gabéric. Il a donc, je cite l'article, électrifié son épouse avec un câble de 220 volts. Le tort de cette dernière, et je cite toujours, ne pas avoir réussi les mots croisés du jour. Il l'aurait également frappé avec une latte en bois. La femme à cette heure est toujours hospitalisée et les déclarations de la victime sont effroyables, a assuré le procureur, qui évoque des actes de torture et de barbarie. Cela étant, elle n'a pour l'instant pas porté plainte avec son agresseur. Ils sont mariés depuis près de 45 ans. Lors de son audition, l'homme a reconnu qu'il méritait la prison. En ajoutant toutefois, je ne suis pas un sauvage. Des câbles électriques et une latte en bois, qu'est-ce donc s'il ne s'agit pas là de sauvagerie?
De son côté, l'Express nous parle de violences sur les enfants.
Selon les chiffres officiels, un enfant meurt tous les 5 jours en France des suites de mauvais traitements et l'angle du dossier ne manque pas d'intérêt. Comment donc punir le silence? Punir celles et ceux qui savaient et n'ont pas dénoncé. C'est l'histoire de Jonathan, qui souvent entendait des cris dans l'appartement situé à côté du sien à Reims, puis des coups, puis les pleurs d'un enfant. Un jour, le garçon de 3 ans est mort de ces violences imputées à son beau-père. Jonathan assure qu'il avait voulu alerter la police. Pas de chance, le commissariat était fermé. Il aurait aussi averti le bailleur social, mais sans être pris au sérieux. Malheureusement, relève Thibaut Solano, personne ne se souvient de ses démarches. Et en octobre prochain, Jonathan, 34 ans, sera jugé au tribunal correctionnel pour non-dénonciation de ces mauvais traitements qui ont coûté la vie au petit Tony en 2016. Près de 90 personnes ont été condamnées pour ce motif cette année-là.
D'autres drames familiaux dans les pages de Paris Match.
Des pères privés de leurs enfants, ils s'appellent Emmanuel, Stéphane, Vincent et sont tombés amoureux de femmes japonaises. Mais celles-ci, du jour au lendemain, se sont évaporées en portant leur progéniture. Une centaine d'autres pères français connaissent le même sort. Et depuis, ils se confrontent au mieux à l'indifférence et au pire à la garde à vue longue durée au Japon. Là-bas, quand la mère a décidé que la rupture devait être complète, il est interdit de heurter les usages en réclamant un droit de visite. Et dès le divorce prononcé, les pères étrangers sont privés de visa. On se console. On se console ce matin à la lecture de Libération et du Parisien qui reviennent sur les manifestations lycéennes d'hier pour appeler à lutter contre le réchauffement climatique. Près de 120 pays mobilisés et ils étaient 15 000 en France. Une belle énergie qu'on retrouve également dans les pages de Oui Demain. Rencontre avec 25 activistes de moins de 18 ans, de jeunes écologistes, de jeunes inventeurs ou qui se sont lancés dans l'action humanitaire. Leur monde, notre monde, ne leur convient pas. Ils ont donc décidé d'agir, ils ont décidé de se mobiliser.
Et tous les journaux reviennent aussi, Frédéric, sur l'explosion d'hier après-midi dans le centre de Lyon.
Un colis piégé, une douzaine de blessés légers, un homme est recherché. Le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête. Photos de voitures de police en une de nombreux titres de la presse régionale. On perçoit l'angoisse dans les titres. Lyon attaqué, panique à Lyon, la piste terroriste, l'ombre du terrorisme, le spectre du terrorisme. Libération rappelle que cela fait 12 ans que la France n'avait pas connu d'explosion au colis piégé, un mode opératoire très anxiogène, précise le quotidien. Un mode opératoire qui ravive évidemment le souvenir de la vague d'attentats de 1995. Les élections européennes font bien sûr également la une. Abstention. Une surprise est-elle encore possible, questionne le Parisien, tandis que le Figaro et le Monde détaillent les enjeux de l'élection. Le Monde qui nous offre en outre une enquête sur les mystères du vote. Le couple et l'antichambre de l'isoloir, l'intimité des foyers, oui. Et le premier lieu d'échange politique, on débat, on s'influence, des études montrent que les points de vue se rapprochent avec les années. Plus ils vieillissent et plus les couples votent de la même manière. Cela étant, les hommes continuent, nous dit-on, de garder un certain ascendant sur leurs femmes, même si cet ascendant tend à diminuer. Ici encore, ce sont donc des histoires de couple. Et puis, bien sûr, on parle de Cannes dans la presse. Ce matin, ce soir, on découvrira le palmarès et les critiques se livrent à leurs pronostics. À lire notamment dans le Figaro, Palme d'or, Une vie cachée. De Terrence Malick, meilleur acteur, double prix pour Brad Pitt et Leonardo DiCaprio pour le film de Tarantino. Meilleure actrice, Virginie Efira. Pour le film Sibylle, le journal décerne également sa palme de plomb pour Make to My Love, intermezzo d'Abdelhatif Kechiche. Le film Dixit, le journal nous donne l'impression d'être enfermé dans une boîte de nuit avec une musique que l'on n'aime pas et des gens qui n'ont rien à dire mais qui montrent leurs fesses pendant trois bonnes heures. Faux scandale et vraie imposture, comme quoi même au cinéma, on a parfois du mal à croire ce que l'on voit.
Et c'est dans les journaux de ce matin, vous parlez de Virginie Efira, une très belle photo, elle a une de Libération pour ce film, effectivement. Sibylle, Virginie Efira, si loin, si proche.
Et de nombreux journaux la donnent possible lauréate de ce prix d'interprétation. Ce serait cool, elle est super, Virginie Efira.
Exactement, et je vous signale cette soirée spéciale Palmarès de Cannes en direct du Palais du Festival ce soir sur Inter à partir de 19h30 jusqu'à 21h, présentée par Jérôme Garcin et Eva Bétan. Merci Frédéric Pommier.